Tu prends 6 ans. C'est plus bon. 2 Pierre, chapitre 1. Et notre Pierre Bourelli nous a lu ce texte tout à l'heure. Et pendant les deux dimanches, aujourd'hui et le dimanche suivant, prochain, je voudrais vous parler, à vous qui seront là, d'abord des possibilités de la vie chrétienne et deuxièmement des responsabilités de la vie chrétienne. Parce que c'est ainsi qu'on peut plus ou moins diviser ces versets que nous avons lus ensemble. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir devant Dieu sur les possibilités de la vie chrétienne. Alors, je commence avec une question. Quelle sorte de vie chrétienne est possible pour vous? Si vous êtes croyant, ou bien si vous ne l'êtes pas, quelle sorte de vie, tout simplement, est possible pour vous si vous venez à Jésus-Christ? Mais comme beaucoup d'entre vous sont chrétiens aujourd'hui, et Pierre s'adresse aux chrétiens, je vous parle directement beaucoup. Quelle sorte de vie chrétienne est possible pour vous? Quelle est l'image que vous vous faites de la vie chrétienne et ses possibilités? En termes de transformation de votre caractère, en termes de proximité à Dieu, de communion avec Dieu que vous pouvez avoir, en termes de quelle sorte de vie de prière est possible pour toi, pas pour les élites, mais pour toi. Quelle sorte de fruits, d'impact pouvez-vous avoir dans la vie d'autres pour leur bien, dans cette vie chrétienne marchant avec le Seigneur? Quelle est l'image que vous vous faites? Pourquoi est-ce que je vous pose ces questions? Tout simplement parce que cette question est d'une extrême importance pour vous, pour toi, pour ta vie chrétienne. Alors, que tu le saches ou non, tu as une image de ce qui est possible dans la vie chrétienne. Et ton image de ce qui est possible a beaucoup contribué pour faire de ta vie chrétienne ce qu'elle a été jusqu'ici. Parce que c'est selon notre foi, n'est-ce pas, que nous vivons. Et lorsque nous ne croyons pas, lorsque nous diminuons à la taille humaine ce qui est possible que Dieu fasse en nous et à travers nous, bien sûr, nous allons baisser ce que nous vivons, la qualité de ce que nous vivons. Donc vous pouvez voir que c'est extrêmement important et que, en tout cas, tout changement qui va arriver dans ta vie chrétienne à partir de maintenant, oui, dans cet endroit où vous avez un problème particulier, vous avez une lutte persistante, vous n'arrivez pas à surmonter ce péché ou ce problème, votre avenir vis-à-vis de ça dépend en partie de ce que vous croyez vis-à-vis des possibilités en Christ pour vous. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais j'insiste que je ne parle pas aux élites. Moi, je veux discuter avec vous ce qui est possible pour toi, pour moi. Pas pour l'apôtre Paul ou François Croyard, le grand missionnaire français aux Ambésies, ou Martin Luther ou Jean Calvin. Je veux parler des personnes ordinaires comme moi et comme toi. Et c'est à cela que Pierre parle lorsqu'il écrit ce passage, parce que dans le verset 1, nous lisons ceci. « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix ou de la même valeur que la nôtre. » Donc il dit « Je vous écris à vous qui ont reçu la même foi, la même vie chrétienne que nous les apôtres. » Et donc, il veut parler à des gens comme toi et comme moi. Bien, donc nous allons, avec cette introduction, aborder ce passage et essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire et pourquoi est-ce que Dieu lui-même nous parle des possibilités de la vie chrétienne. Le premier point que vous voyez sur votre feuille, c'est simplement qu'il y a des grandes possibilités inexplorées dans la vie chrétienne à laquelle Dieu vous appelle. Je suis convaincu que pour vous tous, comme pour moi, il y a des possibilités, il y a des choses que vous pouvez être et vivre en Christ que vous n'avez pas imaginé jusqu'ici. Je ne veux pas exagérer, je ne veux pas aller au-delà de ce que l'Écriture représente, et je ne vous parle pas d'une vie de rose. Dans le contexte, je vous assure que la vie chrétienne va être une lutte terrible pour vous comme pour moi. La Bible le représente ici. Et dans une guerre, vous savez qu'il y a des revers, il y a des campagnes qui finissent en échec dans une guerre, et il y a des jours où on pense qu'on ne peut pas aller plus loin. La vie chrétienne contient tout cela. Lisez les psaumes, vous allez voir tout ça, n'est-ce pas? Les fois où le psalmiste pense qu'il ne peut pas aller un centimètre plus loin. Mais, dans cette guerre, ces expériences d'un lieu s'ouvrent sur d'autres expériences et des possibilités parce que Dieu est à l'œuvre dans vos vies. Et je suis convaincu qu'il y a quand même des possibilités de la vie chrétienne que nous n'avons même pas commencé à explorer. En termes de connaissance de Dieu, d'intimité avec Dieu, de vie sainte, de force spirituelle, de fruits de l'esprit dans nos vies, d'amour, de joie, de paix, de fidélité, de bonté que nous pouvons connaître dans notre cœur et notre comportement jusqu'au point où le chrétien s'étonne de lui-même, de ce qu'il devient, de ce qu'il est devenu, tout en se lamentant de la partie qui reste à faire. D'accord. Vous voyez donc qu'il y a ces possibilités. Si vous lisez tout simplement certaines expressions que Pierre utilise dans ce passage, et l'apôtre vient vers nous et il emploie un langage qui élargit nos horizons. Regardez le verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Pierre n'exagère pas. Il n'a aucun intérêt à représenter quelque chose qui n'est pas possible. Mais l'apôtre, guidé par le Saint-Esprit, dit que je souhaite et je prie que la paix et la grâce de Dieu soient multipliées dans vos vies. Des mesures inexplorées de paix et de grâce dans vos vies, que vous les connaissiez. Si nous allons plus loin dans les versets 3 et 4, l'apôtre nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Non pas que nous allons devenir divins, vous le comprenez bien, mais lorsqu'il dit participant de la nature divine, ça veut dire que la vie chrétienne, ce n'est pas une imitation tout simplement. Ce n'est pas comme une religion humaine où on a un idéal et on s'efforce de s'y conformer. La Bible dit que la vie chrétienne est quelque chose de beaucoup plus magnifique, c'est que Dieu lui-même, la nature divine, est à l'œuvre en moi, une force qui n'est pas la mienne, une vertu qui n'est pas le mien, est à l'œuvre en moi et je peux devenir de plus en plus participant à quelque chose que seul le Dieu vivant peut faire. Et ça se passe en moi et en toi. Si nous allons un peu plus loin dans le verset 8, nous voyons que, en effet, si ces choses existent en vous, donc ces qualités qui viennent de citer comme la maîtrise de soi, la vertu, l'amour, l'affection fraternelle, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, vous voyez? ce qu'il veut dire. Elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur. Et à la fin, dans le verset 11, il dit « C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel. » Largement, tout est abondant, tout est multiplication dans ce passage. Pierre veut vraiment nous montrer que la vie chrétienne a quelque chose de grand en elle. Juste une petite parenthèse, lorsqu'il dit cette large entrée, littéralement, il dit qu'une large entrée dans le royaume final de Dieu vous soit accordée. Alors, c'est un terme qui était utilisé pour un athlète qui, ayant remporté un prix, rentre chez lui et on l'accueille en liesse et on le fait entrer dans la ville, non pas par le portail, mais on enlève un gros trou dans le mur carrément et il entre dans ce grand trou dans le mur. On a carrément détruit une partie du mur à cause de lui et pour lui. Et c'est ce mot que Pierre utilise et il dit que Dieu peut travailler en toi de manière à ce que dans l'entrée du royaume final, on casse le mur parce que vous allez entrer en champion. Oui, avec toutes vos faiblesses, vos manquements et tout cela, mais en pouvant dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. D'accord? Donc, c'est vraiment formidable et attirant. Donc, nous arrivons donc au deuxième point. Donc, il y a ces grandes possibilités dont l'apôtre Paul parle, et pour nous, ça veut dire que tu peux changer tes attentes vis-à-vis de la vie chrétienne en connaissant mieux le Seigneur. Alors, là, je veux vous convaincre ce matin qu'il faudrait que chacun de nous change concrètement nos attentes vis-à-vis de la vie chrétienne. Il y a des endroits où, franchement, les frères et sœurs, moi, j'ai tendance à être pessimiste. N'est-ce pas? J'ai eu tant de problèmes dans tel endroit de ma vie chrétienne, pensez à vous-même. Est-ce que c'est une qualité morale que vous voulez développer? L'amour? Vous voyez votre égoïsme? Ou bien est-ce que c'est votre vie de prière? Et là, vous avez tellement vécu à un certain niveau que vous vous êtes dit, pas tout haut, mais tout bas, vous vous êtes dit, bon, c'est tout ce qui est possible pour moi. Je me contente de cela parce que je vois que j'ai tout essayé et ça va en rester là. N'est-ce pas? Et donc là, avec l'apôtre, je veux vous convaincre que non, il y a des possibilités et nous devons hausser nos attentes, nos vraies attentes, pour qu'elles s'accordent avec ce que Dieu dit. Sinon, nous ne sommes pas en train de vivre en conformité à la parole de Dieu. Donc, mais comment le faire? Lisez avec moi les versets 2 et 3. « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés. » Vous voyez que dans ces deux versets, il est question de connaissance multiplié par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ en nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Ça signifie que si vous allez élargir vos attentes vis-à-vis de votre vie chrétienne, ça va se passer quand vous apprenez de plus en plus à connaître Dieu et de voir ce dont il est capable et ce qu'il vise et veut dans ta vie. En tout cas, mes attentes de la vie chrétienne sont trop basses parce que mon Dieu est trop petit. Et c'est notre problème à nous tous, n'est-ce pas? Et Dieu est à l'œuvre en nous pour changer cela, d'abord en nous amenant à une connaissance plus grande. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé d'avoir cette expérience, d'être avec quelqu'un qui était particulièrement, qui vivait une vie particulièrement proche de Dieu? Et en connaissant cette personne, d'avoir l'impression que son Dieu est beaucoup plus grand que le mien. sa connaissance de Dieu, sa conception de Dieu, sa manière de voir Dieu est différente. J'étais à la fac, Jean Calvin, vendredi pour un rendez-vous, et là j'ai croisé un monsieur pour la première fois. C'est un pasteur africain de Guinée. Je pense qu'il est président des églises CMA en Guinée. Et lorsque je lui ai dit que j'avais passé des années en Afrique de l'Ouest et que j'avais connu Kassoum Keïta, un des pasteurs les plus connus du XXe siècle de l'Afrique, de l'Ouest et de l'Afrique, il a dit « Ah, Kassoum Keïta, je l'ai connu ». Quand il est mort en 2006, un pasteur malien converti d'islam dans un pays 90% islamique, quand il est mort en 2006, ils ont dû tenir ses obsèques dans le stade de Bamako, la ville capitale. Et ce pasteur m'a dit à la fac que le stade était bondé comme pour un match de foot. Imaginez. Dans un pays islamique, un pasteur évangélique meurt et le stade est rempli complètement. Kassoum Keïta était mon patron pendant quelques années. J'allais le chercher souvent à l'aéroport d'Abidjan et je prenais soin de lui à son arrivée pour des rencontres. Et ce qui m'a toujours étonné, c'était que dans toutes les situations possibles, il était complètement posé. Il avait un calme. Quand il priait, on avait l'impression que Dieu était là. Et qu'il connaissait Dieu d'une manière que je ne le connaissais pas. Quand on est avec de telles personnes, on voit qu'on a besoin de connaître Dieu mieux pour ouvrir la place à une vie chrétienne, à des possibilités nouvelles. Donc, en trois sens, nous devons, selon ce passage, élargir notre image de Dieu d'abord. Dans un premier temps, et c'est le point 1 sur le grand point 2, derrière la vie chrétienne qui t'attend, un Dieu puissamment à l'œuvre pour te donner tout ce qu'il te faut pour marcher avec lui. Regardez le verset 3 encore. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Pierre connaît quelque chose de cela. Dans ses 3 ans avec le Seigneur Jésus-Christ, à répétition, Pierre a eu ses attentes explosées par le Seigneur Jésus-Christ. Le voilà revenant avec les apôtres après une campagne d'évangélisation et ils disent, tout étonnés, « Même les démons sont assujettis à nous en ton nom. » Et Jésus, sans état d'âme, dit tout simplement « Oui ». J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Pour le Seigneur Jésus, c'est normal. Pour les apôtres, tout étonné. Leurs attentes sont vraiment changées. Ou bien, voilà ce jour où cette tempête vient s'abattre sur leur barque et ils sont quasiment sûrs qu'ils vont mourir. Marins expérimentés qu'ils sont, ça ne fait rien, ils sont paniqués, ils n'ont jamais vécu de telles choses. Ils paniquent, ils parlent un peu méchamment au Seigneur. « Est-ce que tu t'en fais pas que nous sommes en train de périr ?» Jésus se réveille parce qu'il dormait. Il se lève et devant ce vent violent qui bascule le bateau et ses vagues, il dit « Taisez-vous ». Calme plat de la nature. Et les disciples maintenant ont plus peur que la peur de l'orage leur a inspiré. Qui est celui-là à qui obéissent même les vents et les vagues? Leurs attentes étaient très petites au moment de la tempête. C'est comme si Jésus disait, mais qu'est-ce que vous attendiez? J'étais dans la barque. Est-ce que vous ne voyez pas ce dont je suis capable? Où est votre foi, dit-il? Où est votre foi dans ce qui est possible lorsque je suis là? Je suis le Fils éternel de Dieu, maître, maître absolu de la nature. Ou bien nous pouvons penser à bien d'autres incidents, les 5000 nourris par Jésus, quelques poissons et quelques pains. Les attentes des disciples, ils pensent que, oh là là, nous sommes mal barrés. Renvoyez-les, Seigneur, afin qu'ils trouvent de la nourriture. Parce qu'on est dans une situation impossible. Qui va nourrir toute cette foule? Il se fait tard. Et Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Pourquoi? Parce qu'ils devaient s'attendre à ce que, avec la présence du Fils de Dieu, cette foule pourrait être nourrie. Les attentes explosées. Et la prochaine fois, on s'attend à autre chose, n'est-ce pas? Parce que le Christ est là. Donc, nous aussi, nous devons apprendre à connaître le Seigneur et à fonctionner avec une connaissance approfondie de sa puissance lorsque nous regardons ce domaine de notre vie, ou bien ce défi dans le service chrétien, ou bien ce problème dans la vie professionnelle, où ça semble... On ne peut pas dénouer ça, on ne peut pas changer ça, on ne peut pas surmonter ça. Et le Seigneur dit, c'est absolument facile avec moi. Qu'il s'agit d'un besoin de sagesse pour changer, qu'il s'agit d'un besoin de force spirituelle pour pouvoir affronter, que ce soit tout simplement le besoin d'une grâce pour supporter parfois avec patience, avec confiance quelque chose. Le Seigneur peut transformer nos situations, n'est-ce pas? Mais nous devons apprendre à connaître que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous ne devons jamais, chers amis, être dans une situation où on pense que les exigences de la vie chrétienne sont plus grandes que les ressources de la vie chrétienne. Vous arrivez à penser ça parfois? Je me souviens, la première année d'université, le cours de chimie. Là, j'étais devant une situation où les exigences du cours étaient plus grandes que les ressources que j'avais. J'arrivais pas. Et lorsque les exigences d'une situation sont plus grandes que vos ressources, qu'est-ce que vous vivez? Alors, cette année-là, j'ai vécu le malheur d'être toujours devant quelque chose qui était plus grand que mes ressources. Et parfois, nous vivons la vie chrétienne un peu comme ça. Comme si les exigences sont plus grandes que les ressources. Donc nous sommes comme ces gens et leur mal de tête. Parfois les chrétiens sont... Le christianisme, ils le tiennent un peu comme un mal de tête. Vous savez, un mal de tête, c'est pénible à avoir, mais vous ne pouvez pas enlever la tête. Donc, et parfois, les chrétiens agissent comme... Oui. Oh, la vie chrétienne, c'est tellement dur, c'est tellement impossible. Mais il ne peut pas l'abandonner, la vie chrétienne. Donc, ils sont obligés de garder ce mal de tête. Et nous devons voir que Pierre est en train de nous dire, non, la divine puissance vous a donné plus qu'il ne vous faut pour cette situation dans laquelle vous êtes maintenant. Vous êtes en train de dire, non, non, ce n'est pas possible. Mais oui, et nous allons voir comment on va y arriver. Mais le deuxième point, sous-point, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement parce que je crois que vous comprenez le principe. Derrière la vie chrétienne est un Dieu qui t'appelle à lui d'une manière glorieuse et vertueuse. Ok, si mes attentes dans la vie chrétienne vont grandir, ma connaissance, mon image de Dieu lui-même doit grandir. Sa puissance, mais aussi son appel. Je dois le connaître mieux comme le Dieu puissant, mais je dois le connaître mieux comme le Dieu qui appelle. Quoi? Regardez avec moi. Le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Pierre n'a pas dit en nous faisant connaître celui qui est sage ou qui est fidèle. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Maintenant, je vous demande, est-ce que vous connaissez Dieu comme le Dieu de l'appel? Comme le Dieu qui t'a appelé à vivre une vie conforme à Jésus-Christ, une vraie vie de service chrétien. Et pourquoi est-ce que cela est important? Je pense que parfois nous vivons un peu comme si la vie chrétienne c'est les Boy Scouts, c'est les scouts, c'est les éclaireurs. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu as choisi d'entreprendre comme ça, et si ça se passe bien, tant mieux. Mais la vie chrétienne n'est pas quelque chose que tu as choisi d'entreprendre. La vie chrétienne est quelque chose qu'un Dieu souverain, il t'a pris, il t'a appelé, et c'est son idée que tu vives la vie chrétienne. Alors, quelle différence est-ce que ça fait quand tu vois Dieu comme le Dieu qui t'appelle? Cette différence. Un jour, Pierre est dans un bateau, vous vous rappelez, et donc il dit à Jésus, qui vient marchant sur l'eau, « Appelle-moi à venir vers toi !» Alors, on voit là que Pierre, qui nous a écrit ce passage, il est extrêmement malin. Vous savez pourquoi? Parce que si c'était simplement son idée et son initiative de marcher sur l'eau, qu'est-ce qui serait arrivé? Ah, il aurait coulé tout de suite, n'est-ce pas? Donc, il sait que la seule manière qu'il puisse le faire, c'est si c'est le plan de Christ pour lui. Si Christ l'appelle, avec l'appel, viendra la capacité de le faire, n'est-ce pas? Et donc, il attend et Jésus dit, « Bien, viens vers moi. » Et il vient avec une confiance autre. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé de marcher sur l'eau. Moi, je n'ai jamais tenté, mais je sais que si je tentais, j'aurais aucune confiance de pouvoir prendre un pas. Mais Pierre, lorsqu'il commence, il est tout à fait confiant qu'il va marcher sur l'eau. Pourquoi? Parce que Jésus l'a appelé. Parce que Jésus l'a appelé. Et qu'il marchait comme celui qui est appelé. C'est pas son truc à faire, c'est pas son choix. C'est le Christ qui m'a dit de faire cela. Et nous devons voir la vie chrétienne comme un appel. Et toutes les vertus que vous devez développer dans la vie chrétienne, toute cette proximité d'une vie de prière réelle, c'est pas ton idée de le faire. C'est Christ qui t'appelle à le faire. Et lorsqu'il appelle, il fournit la grâce pour y arriver. Mais nous oublions ça, n'est-ce pas? Mais Pierre n'oublie pas. Il se rappelle de cet incident dans sa vie. Mais il l'applique partout. Et il dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qu'il faut à travers la connaissance de celui qui nous a appelés. Voilà. Troisièmement, derrière la vie chrétienne est un sauveur qui te garantit une marche bénie par le mérite de sa propre justice. Il y a une chose de plus que vous devez savoir au sujet de Dieu, sa puissance, son appel souverain, mais aussi, nous ne devons pas oublier l'évangile lui-même, c'est-à-dire la justice de Christ qui vous est imputée, mise sur ton compte pour toujours. Nous allons lire le verset 1 et le verset 9 et vous verrez ce que je veux dire. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu, on partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Par sa justice. Ou bien, dans le verset 9, mais celui qui ne possède pas donc ces qualités d'une vie chrétienne qui s'élargit, est un aveugle, il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Qu'est-ce que ça nous montre tout cela? Ça veut dire que la personne qui voit les possibilités de la vie chrétienne et commence à entrer dedans, c'est la personne qui voit que sa vie peut être selon la puissance de Dieu, oui, selon l'appel souverain de celui qui m'a appelé à faire cela, mais aussi ma vie chrétienne, je peux m'attendre à vivre une vie selon ce que Jésus mérite et pas selon ce que je mérite. Vous voyez le problème pour moi, souvent, j'avoue que Dieu est puissant. Je dis qu'il m'a appelé, mais je me dis, je suis un chrétien tellement mauvais, tellement médiocre, tellement infidèle, que je ne pense pas que Dieu veuille me bénir vraiment abondamment. N'est-ce pas? Les autres qui ont bien marché avec lui, peut-être. Mais moi... Et donc, je baisse mes attentes de la vie chrétienne pour que mes attentes soient en ligne avec ma justice de soi. Ce que je mérite. Donc, je suis en train de vivre le contraire de l'Évangile. Parce que l'Évangile me dit, mais c'est pas ça. Ton avenir n'est pas déterminé par ton passé, mon fils, me dit mon Dieu. Ça, c'est les œuvres, n'est-ce pas? Lorsqu'on marche selon les œuvres, je peux espérer selon ma performance. Si j'ai été bon, je peux espérer une bénédiction. Sinon, tant pis. Mais l'Évangile nous dit que nous avons reçu une foi, ça veut dire toute cette vie chrétienne, par la vertu de la justice de Christ. Qu'est-ce qui détermine la largeur de la bénédiction que vous pouvez avoir pour vous transformer, pour que vous soyez utilisé par Dieu, pour que vous soyez proche à lui? Qu'est-ce qui détermine la largeur des bénédictions que vous pouvez connaître cette année, en 2014? Vos performances? Ou bien le fait que Dieu vous regarde non pas selon votre mérite, mais selon le mérite de Jésus-Christ? Voilà. Et ceux qui ne marchent pas avec une vie chrétienne croissante, et c'est vraiment époustouflant que Pierre l'explique comme ça, c'est des gens qui ont mis en oubli la purification de leurs péchés. Tu ne marches plus bien? Je t'assure que tu es coincé dans ce spirale de la culpabilité. Je ne mérite pas, je ne mérite pas, je ne mérite pas. N'est-ce pas? C'est un faux spirale pour le chrétien. On se relève. L'homme juste tombe cette fois et se relève. N'est-ce pas? Et donc, nous voulons être ceux qui s'attendent à des choses bénies avec notre Dieu à cause de sa puissance, à cause de son appel souverain et à cause de ses mérites à lui. Bien. Maintenant, nous allons terminer avec le troisième point. C'est par les promesses de Dieu que tu peux voir ta vision de Dieu et de la vie chrétienne transformée. Ces possibilités, comment est-ce qu'on va les transformer? Comment est-ce qu'on va devenir un de ces chrétiens qui semblent vraiment tellement optimistes, non pas de manière farfelue, n'est-ce pas, et naïf, mais vraiment à cause de ce que Dieu dit, et en ligne avec ce que Dieu dit. Eh bien, vous allez transformer votre vision, vos attentes de la vie chrétienne si vous utilisez les promesses de Dieu pour façonner et former vos attentes. Regardez avec moi donc dans le verset 4. Je vais remonter au verset 3. Et j'essaie de tirer à la fin là. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, donc par la gloire et la vertu de Christ, par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, par les promesses, vous deveniez changement, ce que vous n'avez pas été jusqu'ici, ça le devient. Par les promesses de Dieu, vous devenez participants de plus en plus de la nature divine. D'accord, vous voyez? Alors, vous avez une porte. Vous voulez aller dans une pièce où vous n'avez jamais été. De nouveaux horizons. Alors, il faut passer par la porte. Donc, il vous faut forcément une poignée. On est en train de faire des travaux dans notre maison. À un moment donné, il y avait des portes sans poignée. Là, jusqu'à ce qu'ils reviennent le jour suivant, on ne pouvait pas ouvrir ces portes qui étaient coincées dans le cadre. Donc, mais si vous avez la poignée, vous avez le moyen de passer à autre chose. Et la poignée de la vie chrétienne, pour aller dans ces bénédictions inexplorées, c'est les promesses de Dieu. afin que par elle et pas sans elle, vous deveniez participants de la nature divine. Alors, testez-vous juste un moment, en tirant vers la fin là. Qui êtes-vous en tant que chrétien? Il y a des chrétiens qui bâtissent leurs attentes vis-à-vis de la vie chrétienne sur leur propre résolution humaine, à force de leur volonté. Donc voilà ce chrétien qui dit, je crois que telle chose est possible pour moi dans la vie chrétienne, dans ma proximité de Dieu, dans la transformation de mon caractère, dans mon service chrétien, parce que je vais y arriver. Et vous savez que si vous vivez sur cette base-là, si c'est la raison pour vos attentes, après quelques années, ça ne vole pas très haut, n'est-ce pas? Il y a aussi des chrétiens, je ne sais pas si c'est vous, mais qui bâtissent leurs espoirs, leur idée des possibilités de leur vie chrétienne sur des, je dirais, sur des espoirs arbitraires. Ils disent quelque chose un peu comme ceci. Ben, je suis maintenant chrétien. Ben, j'espère que ça va aller bien, on verra. On verra bien. Et donc, ça ne va pas beaucoup plus loin. J'espère sincèrement, j'espère que je vais pouvoir être un homme de prière, une femme de prière, être quelqu'un qui aime, qui se sacrifie, qui a le courage, qui vit une vie sainte. On verra. Et vous voyez que ça ne peut pas marcher devant nos ennemis. Et puis, il y a des gens qui bâtissent leurs attentes sur leurs expériences ou leurs sentiments. Eux, ils disent, oui, ça fait 15 ans, 20 ans que je suis chrétien maintenant, et je sais par expérience que je ne vais pas surmonter ça. Donc là, c'est clair. Donc c'est mon expérience qui définit ce qui est possible pour Dieu dans ma vie. Mais nous tombons tous dans ce travers, n'est-ce pas? Mais la Bible dit dans ce verset 4 que c'est par la promesse de Dieu que nous devons bâtir et former nos attentes. Et lorsque nous commençons à faire cela, nous allons commencer à entrer dans ces nouvelles expériences de la vie chrétienne et devenir plus participants de la nature divine. C'est-à-dire, vous allez connaître quelque chose de la force de Dieu que vous n'avez pas connu. Et ça marche un peu comme ceci. Sur le dos de votre feuille, je vous ai mis une sorte de démarche. Alors, je vais tout simplement le lire et puis vous lancer un défi pour terminer ce sermon. Donc, vous lisez avec moi la démarche à suivre pour vivre selon les promesses de Dieu. Numéro 1. Je rencontre une promesse dans ma méditation de la Bible. Vous êtes en train de lire un jour et voilà une promesse de Dieu. Ok? Je me regarde pour comparer mes attentes avec ce que Dieu promet dans cette promesse. Ok? Est-ce que je m'attends à ce que je puisse vivre ça? La promesse le dit, mais est-ce que je m'attendais à vivre une telle chose? Troisièmement, je confesse si nécessaire mon manque de foi. Que devant cette promesse, je ne m'attendais pas à ça. Ok? Quatrièmement, je parle avec Dieu au sujet de la promesse et lui demande de la réaliser dans ma vie par sa puissance. Vous pouvez penser à un verset comme 1 Thessaloniciens chapitre 5 et la fin du passage où Paul dit ceci. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre esprit, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. Voilà une promesse. Une promesse que Dieu va vous sanctifier esprit, âme, corps, tout. Il ne va jamais se lasser, il va changer, vous changer jusqu'à l'avènement du Christ. Que vous êtes une de ces personnes qui croient ça. Je m'attends à ce que je sois changé, sensiblement. Que ma femme me le dise. Tu n'es pas le même qu'au début de notre mariage. Je m'attends à cela. Parce que la promesse est là. Il le fera. Ok ? Donc, je lis le verset, je lis la promesse. je vois, est-ce que je suis en train de faire mon image de la vie chrétienne comme ça? Oh non, oh Seigneur, je ne croyais pas à cela. Je ne m'attendais pas à cela. Alors, fais-le, Seigneur. Donc, je prie. Ça, c'est le numéro 4. Cinquièmement, j'intègre la promesse dans mes pensées quotidiennes. C'est-à-dire que je la mémorise. Je la prie, je la médite. Et là, quand vous voyez qu'il y a une promesse où vous étiez complètement pas en attente de cela, il est très important que vous mémorisiez, si possible, cette promesse. Parce que vous devez reformer vos attentes sur ce point précis. Donc, prenez cette promesse avec vous et essayez de vivre avec cette promesse pendant 2 mois, pendant 3 mois. Quand le Seigneur me parle fortement comme ça à travers un passage, je peux passer 6 mois où presque chaque soir, quand je me couche, je révise ce passage dans ma tête et je baigne dedans. J'essaie de que cette promesse m'accable en quelque sorte, n'est-ce pas? Donc, et de le croire, de me reposer, de dire mais que c'est vrai. Numéro 6, je persiste à penser à cette promesse, à croire à cette promesse, à prier au sujet de cette promesse. Et numéro 7, mes attentes commencent à être transformées en accord avec la promesse de Dieu. Je me réveille un jour et je réalise que, ah oui, je m'attends à ce que Dieu fasse cela dans ma vie. C'est-à-dire, je le crois sur ce point maintenant. Et numéro 8, je commence à expérimenter la réalisation de cette promesse dans ma vie parce que Dieu travaille. Donc, voilà le fonctionnement des promesses dans la vie chrétienne. Spurgeon disait que lui, il voulait vivre une vie selon les promesses. Pour lui, il a dit qu'il est impossible pour moi de m'accrocher à quoi que ce soit, sauf si j'ai une prise sur une promesse spécifique de la Bible. Il dit, toute ma vie chrétienne, je le vis comme ça. Chaque promesse est comme une prise où je grimpe, je m'accroche. J'ai toujours besoin d'une promesse spécifique. Et je crois que c'est une chose qui nous manque parfois et qui peut nous aider à hausser nos attentes dans la vie chrétienne. Alors, mon défi pour vous, c'est simplement que vous preniez la deuxième moitié de cette partie de la feuille et que vous preniez quelques domaines de votre vie chrétienne. J'ai mis un aspect du caractère chrétien, par exemple, pour vous, c'est peut-être la patience. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir être en tant que personne patiente? Ok? Et qu'est-ce que, dans vos attentes actuelles, vous les mettez? Et puis, vous trouvez une promesse par rapport à cela, un verset biblique. Et vous commencez à maintenant travailler sur ce domaine de votre vie. Donc, j'ai mis un aspect du caractère chrétien, un aspect du service chrétien, une épreuve que je vis. Est-ce que vous êtes en train de vivre cette épreuve selon les promesses de Dieu? Est-ce que vous avez trouvé une promesse précise? Voilà. Donc, autant pour aujourd'hui et les possibilités de la vie chrétienne, j'espère surtout que nous pouvons, et moi le premier, maintenant dire que le Seigneur nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et pour y arriver, il faut que j'utilise la poignée. Il faut que je commence à utiliser plus les promesses de Dieu. Je sais qu'il y a certains ici qui luttent avec un pessimisme dans la vie chrétienne. Je le sais. Ou une résignation. C'est comme ça. Et je vous donne la porte de sortie que Dieu lui-même nous a donnée. Les grandes et précieuses promesses. Que Dieu nous bénisse. Nous allons chanter ensemble le numéro... Michel, tu peux chercher ta maman. Nous allons chanter pour répondre à ce message le numéro 13 dans le carnet. Après quoi, nous aurons juste un moment de prière. Excusez-moi d'avoir été un peu long.